la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Et vous restez avec nous, Antoine Mercier, on est ensemble jusqu'à 13h30. Une voix au-dessus de la mêlée. Nous recevons cette semaine la philosophe et historienne Mona Ouzouf. Bonjour à vous.
Bonjour.
Directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Révolution française et de l'école publique, voire récemment Jules Ferry, la liberté et la tradition, mais aussi de l'amitié, de l'histoire des femmes ou encore des livres auxquels vous avez consacré la cause des livres. On retrouve chez Gallimard de Révolution en République et des chemins de la France, Quarto paru l'an passé, mais aussi un ouvrage de référence, Composition française, retour sur une enfance bretonne, entre la grande histoire et la petite, la vôtre, votre ouvrage le plus autobiographique. Enfin, la revue Critique vous consacre son numéro de rentrée, dirigé par Pierre Birnbaum et Philippe Roger. Et justement, sur la couverture de ce numéro de Critique, de cette revue, il y a écrit en gros Mona Ouzouf et en dessous, la patience et la passion. Pourquoi ? Ce sont vos deux principales qualités, Mona Ouzouf ?
Le titre, évidemment, n'est pas de moi. Il appartient à la revue et je n'ai pas trop envie de critiquer le titre ici.
Mais vous le reconnaissez ou pas ?
Pas vraiment. Ça ne me correspond pas tout à fait. Je suis quelqu'un d'impatient, donc j'ai beaucoup de mal à m'attribuer cette vertu qu'est la patience. Et par ailleurs, est-ce que je suis un être de passion ? Je n'en suis pas sûr, si on prend le au sens étymologique. Bien entendu, j'ai des intérêts forts et des attaches fortes, mais je suis quelqu'un qui est toujours du côté de la durée et pas de l'instant.
Donc vous êtes patiente.
Ni de l'emportement. Non, c'est autre chose que la patience, c'est plutôt l'endurance. Mais voilà. Donc je trouve que le titre me fait trop d'honneur.
Alors on retitre la revue, en tout cas juste jusqu'à midi, jusqu'à 13h30. Mona Ouzouf, l'impatience et la raison. Ça ira comme ça ?
Oui, non écoutez, plus. Oui. Non. Si. C'est
bon,
tout. Tout est bien de toute manière.
Mona Ouzouf, comment allez-vous ? J'espère bien. D'abord un petit peu enrhumée, mais ça c'est rien. Comment allons-nous surtout, Mona Ouzouf, pour vous ?
Là, vous me posez une question océanique et à laquelle il est très difficile de répondre en deux ou trois phrases. Je pense que nous allons moins mal que nous ne le disons, ou qu'il n'est dit dans les diverses publications, dans les médias, dans les revues. Bon, bien sûr, nous n'allons pas bien. La série d'attentats que nous venons de subir le montre assez. Tout cela est horrible, bien entendu. Pourtant, je pense que l'on pourrait soutenir que cette série de malheurs nous a d'une certaine manière révélés à nous-mêmes. Et au fond, je pense à une phrase écrite par deux journalistes après l'affaire Dreyfus, qui disait dans Le Siècle, je crois me souvenir, que l'affaire avait révélé la France à elle-même, que la menace d'une victoire de l'injustice avait au fond révélé ce à quoi la France tenait le plus, de façon presque consubstantielle. Et donc je pense qu'on pourrait se servir un peu de cette phrase en déclinant la série des attentats que nous venons de subir pour montrer qu'à chaque fois, nous avons découvert un trait de notre identité, puisqu'il faut bien employer ce mot, dont nous pouvons légitimement être fiers. Et donc, je m'inscrirais quand même tout à fait en faux contre l'atmosphère décliniste. On voit très bien, dans les mois ou les années passées, qu'il suffit de mettre le suicide français sur une couverture de livre pour en faire un best-seller. Et ça, je trouve ça tout à fait dommageable. Et par ailleurs, dernière remarque, parce que le sujet est immense, mais j'ai du mal à comprendre comment un pays qui est si malheureux de lui-même, si incertain de l'avenir, si avec des pensées aussi sombres, fait autant d'enfants. Une fois qu'on m'aura expliqué ça, je crois que j'aurai un peu changé d'avis.
Donc notre taux de natalité prouve que nous continuons à croire peut-être à quelque chose et à un avenir commun. Mona Ouzouf, pourquoi quand même cette tentation décliniste, déterministe, voire fataliste, pourquoi elle nous guette en permanence, nous les Français ?
C'est toujours facile de céder à la mélancolie. je pense. Et c'est une facilité, c'est une paresse. Par exemple, j'en prendrai un exemple. Le discours sur l'école, aujourd'hui, qui est un discours de pure catastrophe, est un discours dont je peux comprendre les raisons, mais qui me paraît globalement injuste. Je suis témoin dans bien des cantons de français, des efforts extraordinaires que font les professeurs pour animer leur classe, pour inventer des moyens de fixer l'attention des enfants, puisque ça c'est le vrai problème maintenant. Et je trouve que globalement, la presse française, l'opinion française est très injuste à leur égard.
On va revenir sur l'école, qui est un des points importants de votre travail depuis toutes ces années, mais également la République. On avait d'abord envie, avec Antoine Mercier, de vous questionner un petit peu sur le rôle de l'historien, parce qu'il est lui aussi beaucoup remis en question et débattu aujourd'hui. Tout d'abord, pour vous présenter à ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaîtraient pas forcément dans le texte, comment vous formuleriez la question, fil conducteur de votre œuvre, celle qui a guidé votre travail? Vous y avez réfléchi à l'occasion de la parution du quarto de Révolution en République, Les chemins de la France l'an passé. Quelle est cette idée, ce fil conducteur pour vous?
J'aurais du mal à énoncer un fil conducteur parce qu'en réalité, le fil est double. D'abord, je voudrais dire que l'exercice qui consiste, par exemple, à fabriquer un quarto qui a l'intention de présenter une œuvre globale avec une certaine cohérence, que cette entreprise est toujours un peu compliquée parce que quand il s'agit de fabriquer de la cohérence, au fond, nous ne sommes jamais à court, mais que nous risquons toujours de reconstituer une cohérence inexacte ou une cohérence complaisante. Quand nous nous retournons en arrière vers notre vie, la logique même du récit nous incite à mettre de la cohérence dans ce que nous disons. Mais quand je fais cet exercice de retour en arrière, je pense que deux choses m'ont intéressé dans l'existence et dans mes travaux, et deux choses qui sont contradictoires. La première, c'est l'élan, j'ai presque envie de dire l'élan utopique, avec lequel il arrive aux hommes de franchir la rampe de l'histoire avec des idées ou des images qui, pour eux, vont changer le monde. C'est ce qui se passe pour la Révolution française. Il y a quelque chose de magnifique et d'entraînant dans ces hommes qui se réunissent à Versailles pour régler des problèmes qui sont parfois des problèmes paroissiaux ou villageois, et qui se mettent à rédiger une déclaration des droits de l'homme, et une déclaration des droits qui, contrairement à la déclaration américaine, qui rapatrie le droit des Anglais sur le sol de la colonie, la déclaration des Français, immédiatement marqué par un extraordinaire radicalisme, veut énoncer les droits, pas du tout les droits des Français, les droits de l'humanité en général, ce qui est proprement extravagant. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce geste inaugural. Mais, immédiatement, ce geste fait découvrir la réalité des résistances à cette idée, et des résistances qui ne sont pas toutes des résistances réactionnaires, je dis ça très entre guillemets, mais qui sont des résistances fondées sur l'héritage commun, sur les valeurs partagées, disons sur le contexte. Alors, l'histoire de la Révolution, telle que je l'ai racontée ou écrite ou pensée, est une histoire où les deux aspects coexistent l'un à côté de l'autre, l'un contre l'autre. Et donc ce sont ces deux mouvements-là qui m'ont, je crois, intéressé dans l'existence. Et au fond, presque tous les sujets sur lesquels j'ai travaillé se ramènent peu ou prou à cette contradiction qu'il s'agit, au fond, d'arbitrer. Peut-être que cela explique aussi, vous avez dit au-dessus de la mêlée, ça m'a amusé au début de l'émission, mais il est vrai que je me suis intéressée beaucoup aux transactions, aux arbitrages, aux négociations.
Et vous savez, cette très belle formule en ouverture de ce quarto à propos de la Révolution, cette Révolution qui a fendu en deux l'histoire nationale. Et vous poursuivez, fille de la Révolution, la République hérite de cette ambivalence. Tout ce quarto raconte comment elle a dû composer avec les particularités religieuses, régionales et sociales, renoncer au modèle républicain pur, apporter des correctifs à l'esprit d'uniformité. Elle n'a pu se pérenniser en France qu'en se prêtant à ses accommodements. Alors on va y revenir à ces petits et grands accommodements auxquels aujourd'hui encore, on tente de se prêter sur le rôle de l'historien. Est-ce que vous pensez, Mona Ouzouf, qu'on a raison de faire appel aussi souvent, aujourd'hui encore, aux historiens pour éclairer le présent, voire parfois pour nous prédire l'avenir,
hein ? Prédire l'avenir, c'est trop. Mais éclairer le présent, sûrement. J'en prends un exemple, si vous voulez. L'idée républicaine, aujourd'hui, est utilisée, ou les valeurs républicaines, enfin l'adjectif républicain, est utilisé à tout va. Et d'un bout à l'autre de notre échiquier politique, ce qui est nouveau, il tient lieu de, parfois de talismans ou d'amulettes. Il tient lieu de coups de menton énergiques et patriotes. Il est parfois aussi l'objet d'une appropriation qui est au moins critiquable, en tout cas un peu cynique. Bref, mille et un usage du mot républicain, comme s'il était simple d'user de ce mot, et en réalité, l'historien est là pour rappeler l'histoire compliquée de nos républiques, le fait que l'adjectif républicain a pu abriter, ne serait-ce que dans le temps court de la Révolution française, des choses tout à fait différentes, qui peuvent être le libéralisme girondin, la dictature jacobine, le despotisme napoléonien, tout ça, la République l'a couvert pendant un certain... le nom de République l'a couvert pendant un certain moment. Donc il n'est pas inutile de rappeler cela. Deuxième chose, il n'est pas inutile non plus de rappeler la manière dont la République s'est pérennisée en France, parce que ça a été une affaire très compliquée, malgré tout. Tout le 19e siècle peut être présenté comme un radotage de la Révolution française, une digestion difficile de la Révolution française, puisque aucun régime ne dure plus de 18 ans, et que nous avons droit à deux monarchies, une monarchie restaurée et une monarchie un peu bricolée, celle de Louis-Philippe, bricolée au point de porter le nom d'une révolution, la monarchie de Juillet, ce qui est assez quand même un comble. Donc, des monarchies, un second empire après le premier, une troisième république après la seconde et la première. Donc on a le sentiment d'une sorte d'impossibilité de la France à sortir de la séquence tumultueuse de la Révolution française. La République s'installe en France à la fin donc du 19e siècle, elle devient pérenne. Et comment devient-elle pérenne ? Bien, elle devient pérenne en abandonnant un certain nombre de traits de l'héritage républicain de la Révolution française. Et elle devient pérenne en découplant la République de toute sa traîne de souvenirs, de terreurs, de droits bafoués, etc. Donc, la République n'est pas du tout quelque chose de simple. Et la première chose à faire, je crois, pour un historien, c'est de rappeler que la République dont nous nous réclamons aujourd'hui est l'objet d'un arbitrage et d'accommodement.
Et on se souvient l'an passé de Patrick Veil, historien également, qui, fatigué de l'entendre invoquer à tout va, cette République a tenté de retourner aux sources même de la République pour lui chercher un sens, c'est-à-dire une légitimité et une orientation. Une question d'Antoine Mercier.
Oui, éclairer le présent, malgré tout, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on retrouve cette forme de clivage dont vous parliez, qui est née de la Révolution, précisément, c'est-à-dire la volonté d'aller dans l'abstraction universelle et aussi celle de devoir rester, malgré tout, dans un terroir très précis et délimité et particulier. Est-ce que dans le débat aujourd'hui sur la question des droits entre, par exemple, Hollande et Sarkozy récemment, on ne retrouve pas deux manières de penser la République, qui est d'une part celle qui dit « attention, restons sur les valeurs de la République », c'est-à-dire les droits de l'homme et tout ce qui a été défini de manière universelle, et de l'autre, ceux qui disent, non, il faut maintenant s'occuper des gens, comme ils disent.
Oui, enfin, s'occuper des gens...
Je cite, entre guillemets.
Oui, entre guillemets. Écoutez, que dire à cela ? Bon, d'abord, je crois qu'il n'y a peut-être... Enfin, l'opposition que vous signalez, elle me paraît un peu boiteuse. Si j'ai bien compris ce que vous me dites, Hollande dit « restons-en à la République du droit ». Le droit suffit, les lois que nous avons suffisent, bon, ça ne s'oppose pas à la République des gens. Là, c'est boiteux.
Non, donc parce que, bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qu'a dit récemment Nicolas Sarkozy, c'est de dire qu'il faut que le droit s'adapte à la société, aux problèmes de la société. C'est en cela qu'il fait passer les questions concrètes avant les principes universaux.
Écoutez, je crois aussi que ça tient beaucoup à la dramatisation de la vie publique qui est la nôtre en ce moment et qui ne favorise jamais la nuance. Du reste, c'est ce qui s'est passé aussi sous la Révolution française. À l'origine, il y a deux idées de la République qui sont ouvertes dans la Révolution française et deux chemins que la France aurait pu emprunter, je pense, à égalité. En fait, la France a emprunté surtout un des chemins qui est le chemin d'une République autoritaire. En tout cas, dans l'imaginaire, une république centralisée, unitaire, autoritaire, la république une et indivisible. Ce qui n'a pas été sans occasionner quantité de problèmes. Qu'est-ce qui a fait que ce chemin a été choisi plutôt que l'autre, c'est-à-dire un chemin plus libéral, plus respectueux des gens, justement, des différences concrètes, c'est la guerre. C'est à la fois la guerre étrangère et la guerre civile. Il n'y a rien de tel que la guerre pour unifier imaginairement, fantasmatiquement, un pays. Et là, effectivement, le fait que nous soyons en guerre, là-dessus, je sais qu'on peut faire quantité de réserves, mais je me partirais simplement du sentiment que nous le sommes. Ça n'est pas une vraie guerre, bien sûr, mais le sentiment que nous sommes en guerre est largement répandu, et ce sentiment ne favorise absolument pas les solutions modérées. Mais il me semble qu'il y a dans le droit français de quoi résister pour ne pas légiférer à tout va. Je pense qu'il faut aussi que nous nous gardions de cette manie de légiférer dès qu'il y a quelque chose qui nous heurte ou qui nous choque. Voilà ce que j'aurais à répondre. Je serais plutôt du côté, en effet, de maintenir dans l'extrême mesure du possible le droit.
La question de la temporalité de l'histoire, notamment pour éclairer ou pas l'actualité, revendiquer une histoire sans fin parce que toujours ouverte à ce qui la déborde et la transporte. Ce sont les mots de l'historien médiéviste Patrick Boucheron devant le Collège de France lors de la leçon, de sa leçon inaugurale en décembre 2015. On va l'écouter.
Nous avons vécu confortablement le temps de la décolonisation de l'empire brodélien des sciences humaines. Il offrait sinon des libertés, du moins quelques facilités. Mais il fut aussi l'âge des grands scrupules. On nous les imposait pour des raisons nécessaires et honorables. N'oublions pas ce coup de froid jeté sur l'inventivité de l'intrigue historienne par ce rappel à l'ordre du réel qu'exigeait la réponse à l'épreuve négationniste. Il serait bien imprudent de ne pas comprendre qu'elle nous requiert encore, et plus que jamais. Elles nous requièrent, oui, mais exigent également de nous autre chose. Elles exigent que l'on se donne les moyens, tous les moyens, y compris les moyens littéraires, de réorienter les sciences sociales vers la cité, en abandonnant d'un cœur léger la langue morte dans laquelle elles s'empâtent. C'est à une réassurance scientifique du régime de vérité de la discipline historique que nous devons collectivement travailler. Et j'ose la dire scientifique, en ce lieu si singulier, qu'est le Collège de France, où se rencontrent à la fois et depuis si longtemps des textes anciens et des objets modernes. Les premiers nous intimant l'ordre de les lire lentement, les seconds précipitant notre désir de répondre au plus vite aux urgences du présent. Pour que les premiers s'accordent aux seconds, il convient de réconcilier en un nouveau réalisme méthodologique l'érudition et l'imagination. Si c'est cela l'histoire, si elle peut cela, alors il n'est pas tout à fait trop tard.
Alors après le 11 janvier, Mona Ouzouf, après l'union nationale, la désunion, les divisions, la discorde, les tensions ravivées encore pendant l'été après l'attentat de Nice et de Saint-Étienne du Rouvray, risque de guerre de religion, nous a-t-on dit, des responsables ont aussi ressorti le chiffon rouge de la guerre de civilisation face à cette société qui se fissure. On a le sentiment qu'il y a quand même vraiment un besoin d'histoire. Est-ce qu'il y a aussi, d'après vous, et comme l'évoque Patrick Boucheron, l'auteur de Prendre date, est-ce qu'il y a aussi besoin d'un renouveau pour ne pas perdre notamment la jeunesse sur ce sujet?
Oui, moi je le dirais avec des termes moins vastes que ceux de Patrick Boucheron. Je pense que nous avons tous besoin, c'est vrai dans le domaine de la littérature, mais c'est aussi vrai dans le domaine de l'histoire, d'un retour au récit. Et d'un retour modeste au récit qui nous... Parce que, effectivement, nous avons été pris dans le rêve ou de lois objectives de l'histoire et que nous avons eu tendance à négliger la présence dans l'histoire de l'intempestif ou de l'événement. Il y a eu un temps où l'histoire événementielle était effectivement brocardée ou méprisée. Patrick Boucheron le rappelle un peu. Donc là-dessus, je suis absolument d'accord avec lui sur ce plan-là, mais en le disant dans des termes plus simple. D'autre part, vous avez évoqué le besoin de retrouvailles, au fond c'est ça que je dirais, le besoin de retrouvailles après les attentats. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je pense que ces retrouvailles ont eu lieu, contrairement là encore au discours déclinistes qui nous serine, que nous étions fort nombreux dans la rue le 11 janvier, mais que le lendemain...
Il n'y avait pas tout le monde.
Mais qu'il n'y avait pas tout le monde, qu'il y avait beaucoup de gens restés devant leur télé. Tout cela est complètement absurde. C'est la plus grande manifestation de notre histoire. Et donc, aucune manifestation n'a jamais rassemblé le peuple entier. Tout ça est fou. Donc, dire que ça n'avait aucun sens me paraît, là encore, faire partie de ce discours d'abandon, de défaite, etc., que je n'aime pas. Et par ailleurs, puisque vous en parlez, la série des attentats est d'une certaine manière très intéressante parce qu'elle nous a donné le moyen de nous retrouver sur des choses dont nous pouvons être légitimement fiers. Parce qu'être fier d'être français, il y a deux patriotismes. Il y a un patriotisme qui subordonne l'attachement à la patrie à ses mérites. Et il y a le patriotisme qui fait découler les mérites du simple fait d'être de cette patrie. Deux patriotismes tout à fait différents.
C'est quoi les raisons alors ?
Qu'est-ce que nous avons trouvé dans ces attentats ? Le premier, celui pour lequel j'ai un grand remords, celui de Mohamed Merah. Parce qu'il n'a pas déclenché justement l'émotion collective qu'il aurait dû déclencher, parce qu'il était particulièrement affreux. Enfin, ils le sont tous, mais bon... Cet attentat-là nous a fait retrouver, d'une certaine manière, la France de l'affaire Dreyfus. L'attentat de Charlie nous a fait redécouvrir la France patrie littéraire, la France attachée à la liberté de la presse, à la liberté de contester, le pays où une loi sur la presse a déclenché une révolution, celle de 1830. C'est ça que nous avons retrouvé dans cette foule brandissant des crayons. L'attentat du Bataclan, qu'est-ce que ça nous a fait redécouvrir ? Eh bien, une certaine France de l'hédonisme, une France du bonheur de vivre, de la douceur de vivre, et surtout, peut-être, une France de la visibilité des femmes dans l'espace public. Vous savez, ça me fait penser à tous ces voyageurs étrangers qui mettent le pied en France, au 18e, au 19e, même avant, le 18e, au 17e aussi, et qui disent « la première chose qui nous frappe en France », c'est la présence des femmes, elles sont partout, elles sont visibles. Ce qui du reste éclaire peut-être un peu aussi la question du voile. La France est le pays où on voit les femmes partout. Bon, c'est un trait qui paraît, à ceux qui le disent, par exemple, sous la plume de Hume, philosophe écossais, ou de Henry James, romancier américain, c'est le signe pour eux d'une certaine séduction sociale de la France, due à la mixité. Voilà ce que nous avons un peu aussi retrouvé dans cet attentat du Bataclan. Et je dirais que l'attentat contre ce vieux prêtre disant la messe devant trois religieuses, ça nous a aussi rappelé que si la France n'est plus chrétienne, parce que si elle n'est plus religieuse, elle a quand même l'émotion que cela a suscité, nous amène à penser que l'héritage, je ne parlerai pas de racines chrétiennes qui nous enfermeraient dans tel ou tel comportement ou dans telle ou telle réaction, mais effectivement l'existence de cet héritage chrétien. Donc on a là toute une série de choses qui nous ont fait nous retrouver, je crois, nous-mêmes. Et autour de ces retrouvailles, dans ces retrouvailles-là, il y a peut-être un brin d'espoir.
À quel prix, effectivement, vous l'évoquiez aussi, et pour pas vous voyez reprocher vos émissions, on imagine que vous rattachez aussi à l'attentat de Mohamed Merah à Toulouse, celui de l'hyper Kacher en janvier. Mais est-ce qu'à travers tous ces attentats, à contrario, vous n'avez pas, vous aussi, Mona Ouzouf, redécouvert ces accents de sectarisme républicain que vous combattez? Je sais que vous n'aimez pas forcément beaucoup ce terme-là. Ce républicanisme intégriste, on l'a également réentendu revenir pendant l'été, hein, lors des interminables débats engendrés par l'affaire du Burkini.
Oui. Je suis très embarrassée par l'affaire du Burkini. Très embarrassée parce que je ne suis pas sûre de... Voilà, je ne possède pas l'interprétation de cette affaire. Je lis et je me convainc qu'il s'agit d'une entreprise très concertée, très gouvernée, et donc qu'il faudrait réagir, verbaliser, légiférer. Il est possible en effet que ce soit une entreprise très gouvernée, très concertée. Mais par ailleurs, c'est quand même étrange cette affaire du Burkini. Ces femmes qui veulent participer aux joies de l'été sur la plage et se baigner... Est-ce qu'elles sont vraiment dans la ligne d'un islamisme pur et dur qui voudrait que les femmes restent à la maison, qui relègue les femmes dans un espace domestique? Est-ce que ça n'est pas d'une certaine manière, comment dire, une petite victoire de l'Occident quelque part? Je n'en sais rien. Je suis très hésitante là-dessus et je n'aime pas parler de cela parce que... Mais je peux le faire tout de même, parce que j'ai beaucoup hésité, j'ai très longtemps hésité sur la question du voile, jusqu'à me laisser convaincre par en particulier les rapports de la commission Stasi. Mais au départ, je n'étais pas certaine qu'il ne fallait pas laisser aux proviseurs, à l'équipe éducative sur le terrain, déterminer au cas par cas si le voile était prosélyte ou ne l'était pas. Donc, je l'avoue, j'étais plutôt hostile à la loi. Et maintenant, je pense qu'il le fallait. Mais cela étant, par exemple, je pense que c'est une folie d'étendre la mesure du voile soit à la rue, soit à l'université, comme il a été proposé. C'est d'ailleurs avoir une très faible confiance dans les capacités émancipatrices de notre enseignement, de penser qu'une jeune fille voilée à l'université... va rester prisonnière de ses traditions ancestrales et ne va pas attraper quelque chose de la culture moderne. C'est tout le débat d'ailleurs. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il est sans intérêt de remarquer que le comportement démographique des populations immigrées se rapproche de plus en plus du comportement démographique de la nation d'accueil? Est-ce que c'est sans intérêt? Est-ce qu'on garde les mêmes rapports à l'intérieur du couple? Est-ce que le rapport entre les hommes et les femmes n'est pas changé par un comportement démographique qui se rapproche d'un comportement de la modernité? Je pense qu'il faudrait poser la question, et de la même façon, c'est la même question que le voile à l'université. Est-ce qu'une jeune fille qui entre dans l'univers scientifique et technologique n'est pas d'une certaine manière déjà gagnée par la modernité? Est-ce que les domaines sont étanches?
Mona Ouzouf est notre invitée de la deuxième partie de cette grande table à l'occasion du numéro spécial de la revue Critique qui lui est consacré en cette rentrée à propos de féminisme, de combat. La ministre Laurence Rossignol a lancé une campagne contre le sexisme et déclaré que le sexisme était un ensemble de stéréotypes, de représentations, de comportements qui parfois sont nichés dans notre inconscient collectif et qui contribuent à impuissanter les femmes, les ramener toujours à une condition dont elles sortent depuis plusieurs dizaines d'années et les déstabiliser au quotidien. Mona Ouzouf, vous qui faisiez des femmes dans votre essai des gardiennes de la langue, qu'est-ce que vous pensez de ce néologisme et du combat qu'il devrait revêtir?
Oui, écoutez, j'ai dans ce numéro de Critique dont vous avez la gentillesse de parler, une historienne américaine féministe, Lynn Hunt, dit de moi que je suis inclassable parce que je suis féministe et antiféministe. Et donc ça m'a fait réfléchir. Je suis féministe à l'évidence. Si on entend par féminisme l'accès des femmes à tout ce qui était jusqu'alors réservé aux hommes, je suis entièrement féministe. J'ai été élevée par deux femmes, seules, ma mère et ma grand-mère, qui ne comptaient nullement sur les hommes pour vivre et pour survivre. Et donc, je me sens parfaitement féministe. Est-ce que je suis anti-féministe ? C'est autre chose. Je suis quelqu'un, et c'est pourquoi on me classe souvent parmi ces anti-féministes, je suis quelqu'un qui croit à l'existence de quelque chose comme du féminin. Le féminin existe. C'est un propos inécoutable, souvent, parce qu'on a tendance à le confondre avec l'éternel féminin, et donc à penser que l'idée qu'il y a du féminin claque-mure les femmes dans un destin pré-écrit.
Donc ça veut dire, par rapport à la théorie du genre, vous êtes...
Je suis plus que réservée par rapport à la théorie du genre, parce que je pense que, justement, le statut des femmes en France, qui est je trouve, un statut particulièrement heureux. Là aussi, je tiens un propos tout à fait, je sais, inécoutable. Il est dû à quoi ? Il est dû au fait que la femme en France peut se penser comme un sujet neutre du droit, ce qui est une énorme liberté. Un exposé fait dans un colloque, une conférence faite ici et là, un écrit, les femmes ne demandent à ce qu'ils soient jugés que pour leur valeur intrinsèque et non pas pour le retour à l'origine sexuée. Donc, les femmes en France, je crois, ont acquis, et c'est une énorme émancipation, le droit d'être jugées comme des sujets neutres. En même temps, et ce qui est étonnant, cette révolution extraordinaire, cette émancipation féminine que je salue, n'a pas entraîné pour autant le renoncement à des traits féminins. Par exemple, ça n'a pas du tout entraîné le renoncement pour les femmes à plaire, à avoir le souci de leur apparence. Si bien que les femmes peuvent en France vivre sous un double régime, qui est le régime libérateur de la neutralité des différences et le régime des différences qui donne toute sa saveur à l'existence et sans lequel l'existence n'a plus aucun intérêt romanesque, par exemple. Donc les femmes peuvent faire les deux en France. Alors, bien sûr, je sais ce qu'on va me dire, et on pourrait le dire alors d'un point de vue hostile au féminisme, oui, les femmes veulent le beurre et l'argent du beurre. Ben oui, elles veulent, c'est très vrai, elles veulent le beurre et l'argent du beurre, elles veulent être traitées comme un sujet neutre du droit, parce que c'est la garantie de la liberté, et elles veulent aussi être traitées selon un régime des usages. Ce régime des usages qui comporte, je vais dire encore un gros mot, la galanterie, par exemple. Donc, les femmes françaises, je crois, n'ont pas renoncé à cela, et c'est, je pense, pour cela qu'elles ont résisté à ce féminisme américain, je ne dis pas que ce soit tout le féminisme américain, mais à cette espèce de féminisme qui voit dans tout homme un ennemi potentiel. Je crois que ça, on ne le fera pas accepter aux femmes françaises, même aux féministes.
Merci beaucoup Mona Ozouf. On aurait pu parler encore de l'école, de la République et de bien d'autres choses avec vous, mais vous reviendrez nous voir très prochainement. Je rappelle que le numéro de Critique, la revue, vous est consacré son numéro d'août-septembre après un colloque auquel vous étiez l'invité d'honneur, la figure centrale en juin dernier. Merci mille fois à vous d'avoir accepté notre invitation. Aux manettes, ce midi, il y avait Luc-Jean Reynaud avec Anthony Thomasson à la programmation et à la préparation, Claire Maillot, Clémence Marie, Inès McGriff et mes égards. Également Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc sur les réseaux sociaux. Farah Kéram qui fait le lien entre vous et nous sur les réseaux mais aussi sur le site franceculture.fr où vous pouvez retrouver cette émission, la réécouter ou la podcaster. Vous voyez Mona Ozouf, une émission, une équipe absolument paritaire. Merci beaucoup à tous. À demain.